le snow farming.
Bah après, je comprends. On essaye de préserver un certain comment dire, tourisme d'hiver dans les Alpes et dans les Pyrénées aussi. Mais bon, s'il n'y a plus de neige, il n'y a plus de neige. On n'est pas Dieu, on est en train de se prendre pour Dieu et je pense qu'on court à notre perte.
Bonjour à toutes et à tous, c'est toujours une joie de vous accueillir dans Zoom Zoom Zen, comme Bill Murray dans Un jour sans fin, sauf que, je le précise à notre stagiaire Lola, je ne suis pas Bill Murray, si jamais l'idée lui prenait d'utiliser une photo du célèbre acteur américain pour illustrer une story de notre émission. Comme Bill Murray, donc, dans Un jour sans fin, j'ai l'impression de revivre sans cesse la même journée, mais loin d'être un cauchemar, c'est un rêve. Un rêve éveillé, puisque chaque après-midi, on décrypte notre époque à travers ses mots et ses expressions, et aujourd'hui, un avant-goût des vacances de février, direction la montagne. Dans l'équipe, on milite tous depuis des semaines pour une délocalisation au ski, pourquoi pas à l'occasion du festival de l'Alpe d'Huez, mais voilà, vous connaissez tous le principal défaut de Cyril.
Il est égoïste.
Exactement. Exactement, c'est pourquoi notre rédacteur en chef qui skie en chasse-neige et n'envisage pas les sports d'hiver que à travers le prisme déformant des fondus savoyardes qu'il va pouvoir s'envoyer dans les restaurants d'altitude, il ne s'est pas du tout bougé pour qu'on aille à l'Alpe d'Huez, si bien qu'on ira à Cérimania à Lille, comme d'habitude. Alors, cet après-midi, on va vivre le rêve de poudreuse par procuration. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Non. Ce que je voulais dire, c'est qu'on va zoomer sur une technique en vogue qui permettra peut-être de skier encore quelques années malgré le réchauffement climatique et sans émettre de CO2, le snow farming. Et si au lieu de faire tourner des canons à neige, on préservait d'une année sur l'autre la neige tombée naturellement? C'est ça, le principe du snow farming. Est-ce que ça marche? Comment ça marche? Est-ce que ça veut dire qu'il est encore temps d'investir dans un chalet à Courchevel? Question du tonton de Quentin Lui. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Et bonjour Hugues François.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Hugues, vous êtes ingénieur à l'INRAE. Vous consacrez vos recherches aux territoires touristiques de montagne menacés justement par le dérèglement climatique. Avec vous, on va voir comment les stations de ski en particulier anticipent la fin de la neige, notamment avec ce qu'on appelle donc le snow farming. Eux, je les ai élevés sous serre, mais regardez les résultats, ils sont radieux. Hein. Manon Mariani, Quentin Lui, bonjour.
Bonjour. Bonjour à tous.
De beaux spécimens.
Oui.
Manon, J-47 avant Méribel.
Oh, c'est pas beaucoup, ça va.
Les bars et restaurants d'altitude se préparent déjà en conséquence en faisant entrer un maximum de vin et spiritueux histoire de ne pas être à sec au bout d'une semaine de vacances. Vous êtes excité? Vous skiez bien?
Oui, excité. Le dry January sera fini en plus. Skie très bien, sauf que bon, ça fait 6 ans que je suis pas allée. Voilà, j'ai un peu peur.
La parisienne qui dit qu'elle skie très bien après 6 ans
d'abstinence. Je vais mettre un casque quand même.
Oui, on vous le conseille.
C'est conseillé.
Oui, je prendrai des vidéos. Voilà.
Manon, vous êtes passionnée aussi pour le snow farming.
Ça passionne en tout cas ma personne à suivre du jour, un snowboard américain qui a créé une association pour mobiliser la communauté des sports d'hiver contre le réchauffement climatique.
Face à vous, Hugues François, ayant grandi en Normandie, il connaît peu la montagne. À part évidemment le tube de Jean Ferrat, la Suisse romande étant, il faut bien le dire, en matière de montagne, une arnaque. Il ne sait quasiment rien des montagnes et pourtant il a enquêté. Quentin, les passants que vous avez interrogés, ils avaient entendu parler du snow farming.
La Suisse normande peut-être.
Qu'est-ce que j'ai dit?
Romande. Bon, pourquoi pas. Je me suis rendu au point culminant le plus proche de nous pour un reportage en immersion. Le Jura? Non, Montmartre. Voyons ce qu'inspire le snow farming aux gens dans la rue à Paris. Réponse dans la prochaine demi-heure.
Je vois que j'ai été victime d'un piratage puisque effectivement j'avais écrit évidemment parfaitement la Suisse normande.
Je comprenais pas.
Et là, il y a écrit Suisse romande. Il y a écrit Suisse romande.
Non.
Je pense donc que c'est Cyril Lacarrière qui corrige l'émission qui a remplacé le normande par romande, foirant ma vanne. Cyril, vous ne tiendrez pas la fin de saison, je vous l'annonce.
Il y a les Alpes Mancelles aussi.
C'est pas moi qui connais
même
pas.
La Suisse normande, c'est magnifique, mais c'est quand même pas vraiment des montagnes. Non. Vers 16h30, nous jouerons avec les films marquants évoquant la montagne. Un quiz opposant Manon à Quentin qui se terminera certainement par les protestations courroucées de Quentin après une énième branlée.
Comptez pas sur moi l'année prochaine pour la compète, c'est terminé, fini.
Mais calmez-vous, Quentin. Ça n'a pas commencé. Juste avant 17h, nous serons rejoints par le truculent Harold Barbet. Mais d'abord, Hugues François, est-ce que, quelles que soient les innovations technologiques dont on va parler, les techniques qu'on met en place, est-ce qu'on n'est pas en train de vivre quand même simplement les dernières saisons de sport d'hiver?
Alors, globalement, la neige, pour les stations de sport d'hiver, ça a toujours été un problème. D'un côté, on a des investissements très lourds et une ressource qui est très variable dans le temps. Donc, on ne peut pas savoir à l'avance quelle sera la quantité de neige cette saison pour pouvoir skier.
Il n'y en a pas de moins en moins ?
Eh bien, effectivement, avec le changement climatique, ce qui se passe, c'est que cette variabilité, elle se maintient, mais dans une tendance à la baisse. C'est-à-dire que de plus en plus, on va avoir des hivers moins bien enneigés et de moins en moins d'hivers très bien enneigés. Et donc ça, à terme, ça pose problème justement pour faire fonctionner les remontées mécaniques et l'ensemble des stations de sport d'hiver.
Pardon, mais est-ce qu'il y a des projections ? Est-ce qu'on sait, si on ne fait rien, si on fait rien de spécial, est-ce qu'on sait quand il n'y aura plus de neige dans nos stations ?
Alors, aujourd'hui, on estime qu'à plus 4 degrés, donc c'est effectivement le scénario business as usual en fin de siècle, on va arriver à ce que 98% des stations dans les Alpes et au niveau européen soient menacées par un très fort risque de faible enneigement 98%. Sans production de neige. Si on tient compte de la production de neige, ce chiffre il redescend à peu près aux deux tiers. Mais on est quand même très menacé et la production de neige ne peut pas tout, hein, puisque pour produire de la neige, il faut quand même qu'il fasse relativement froid.
Lui, il y a deux choses qu'il aime au ski et le ski n'en fait pas partie. C'est le reblochon et le génépi. Cyril Lacarrière, vous faites partie de ces gens pour qui la disparition de la neige ne changera pas grand-chose au plaisir de l'altitude.
Je n'aime pas du tout le génépi.
Vous avez jamais goûté, je pense.
Si, j'aime
pas. Vous n'avez jamais goûté un bon génépi, Cyril.
Ah, si,
vous n'êtes jamais venu à la maison à Genève. Bon, bref,
non,
peu importe.
Pas été invité.
Pas invité. Bon. Ouais,
comme d'habitude, on n'est jamais invité chez vous.
Mais ça fait combien de temps qu'on travaille ensemble ?
Trois ans et demi.
Trois ans, mais on va attendre de se connaître un peu mieux.
Moi,
oui,
voilà
bien. Alors, vous vous êtes renseigné.
Pour voir Monique.
Bon, ça suffit. Vous vous êtes renseigné, Cyril, le snow farming, d'où ça sort ?
Nous sommes en 2001 dans les Alpes suisses. Un groupe de scientifiques et d'ingénieurs décide de se pencher sur un problème qui va devenir de plus en plus urgent, le réchauffement climatique. Urgent car dans la région, les stations de ski sont sous pression, les hivers sont plus courts et il y a moins de neige. Il y a bien la neige artificielle, mais ça ne suffit pas, ou en tout cas ça ne suffira plus. Il faut trouver une manière de préserver la matière première de l'industrie du ski, la neige. C'est là qu'apparaît le snow farming, littéralement l'agriculture de la neige. L'idée est simple mais étonnante, au lieu de compter uniquement sur la neige qui tombe du ciel, si on conservait celle qui est déjà là. Et si, au lieu de laisser fondre la neige qui tombe au printemps, par exemple, on l'amassait et on la conservait. L'idée peut paraître dingue, mais le business en jeu est tel qu'il faut vraiment une idée de dingue pour sauver les murs. Et ça marche. En tout cas, les premiers essais montrent des résultats. Par exemple, dans la prestigieuse station de Zermatt en Suisse, où on a pu préserver plusieurs mètres de neige
très belle
tout
station.
Au long... Effectivement, on a pu y préserver plusieurs mètres de neige tout au long de l'été, de la neige qui est ensuite utilisée pour démarrer la saison de ski, même quand l'hiver, lui, tarde à arriver.
Il va nous falloir plus de détails, vous avez parlé de masser la neige, et on va se mouiller les doigts si on masse la neige. Je ne comprends pas très bien en quoi ça va
permettre de la gagner.
Amasser la neige, voilà, mais c'est bien de bien articuler. Et comment ça marche concrètement alors Cyril ?
Eh bien comme je vous le disais, dès que les saisons de ski se terminent, on collecte toute la neige qui est encore là, on la stocke sous une couche d'isolant, et on attend. Selon les partisans de cette technique, elle ne nécessite aucune ressource d'énergie, à la différence, justement, de la neige artificielle. Il s'agit juste de protéger celle qui existe déjà. Bref, c'est comme si on cultivait de la neige. Alors, est-ce que ce snow farming, ça peut vraiment être l'avenir des sports d'hiver ? Est-ce que c'est vraiment écolo ? Est-ce que skier, ce n'est pas déjà une aberration écologique ? Est-ce que le snow farming, ce n'est pas une sorte d'économie circulaire ? C'est ce qu'on va voir durant une heure.
Merci Cyril. Hugues-François, finalement, ce que décrit Cyril, est-ce que c'est pas une manière écolo de continuer à skier en hiver ?
Alors, est-ce que le problème de skier écolo, c'est la neige, c'est une question. Est-ce que le snow farming est écologique, c'en est une autre.
Là, c'est pas sûr.
Alors, pas forcément. Dans tous les cas, pour faire du snow farming, de manière générale, on n'utilise pas la neige qui est déjà présente. Hein. En fin de saison, on vide les retenues, on va taper dans la ressource en eau, de manière à produire de la neige qui, elle, sera stockée.
Okay. Hein,
c'est vraiment une manière d'avoir une deuxième campagne de production. Donc, on fait quelques petites modifications sur le terrain aussi. On va creuser quand même un petit trou parce que le sol a une bonne inertie. Donc, quand il est froid, on va profiter de cette inertie-là pour stocker la neige. Mm-hmm. Et effectivement, par-dessus, on va rajouter une couche d'isolant. Donc il y a des impacts écologiques quand même, puisque comme vous l'avez expliqué, on stocke une grosse quantité de neige. Donc cette quantité de neige, elle pèse lourd. C'est de la neige qui est en plus de la neige de production, une neige qui est assez dense. Mm-hmm. Et du coup, elle va avoir tendance à tasser les sols, à rendre plus difficile ensuite la recolonisation par des espèces, notamment florales, dans l'endroit où on a produit de la neige.
Voilà,
on a stocké cette neige.
Mais du coup, pourquoi on n'utilise pas la neige qui est déjà là, ou plutôt que la laisser fondre ?
Alors, ce qui est intéressant, en fait, dans le snow farming, c'est de pouvoir avoir une réserve en eau, en fait. Le problème pour produire de la neige, c'est la limite qu'on a sur la ressource en eau et sa disponibilité où on a besoin de la produire. Et donc, en fait, plus on stocke une neige dense, donc une neige qui a été produite, plus on va avoir une ressource en eau importante qui est stockée et une neige qui va pouvoir être étalée et travaillée en début de saison. Et en plus... Bah, l'avantage de cette neige pour commencer la saison, c'est qu'elle est disponible immédiatement, y compris quand les créneaux de froid ne sont pas là pour produire de la neige.
Mais du coup, ça marche quand même surtout dans les grosses stations et les stations qui sont hautes.
Alors, est-ce que ça dépend de la taille de la station ? Pas forcément. Effectivement, il y a des grosses stations qui ponctuellement vont avoir des petits stocks de snow farming pour traiter des endroits très spécifiques. Mais le problème du snow farming, c'est qu'on couvre pas les mêmes surfaces qu'on est capable de produire aujourd'hui avec de la production de neige, parce que même si cette neige elle est disponible, ensuite il faut la répartir sur le domaine skiable. C'est pour ça que c'est une technique qui est plutôt utilisée sur les domaines de fond en général, puisque c'est plat, c'est plus facile d'accès et on a moins besoin d'une couche très importante.
J'ai lu que dans les pays scandinaves, on gardait la neige de fin de saison, on mettait une couche de sure de bois dessus comme un isolant et on la réutilisait l'année d'après. C'est vrai ça ou ça se transforme en eau et on reproduit de la neige?
En fait, dans la compréhension des choses, il y a un petit mélange entre l'usage traditionnel, hein, parce que cette pratique d'utiliser de la neige, des combats froids, des cialets, des choses comme ça, pour stocker et garder au froid pendant la saison estivale en utilisant les ressources de la saison hivernale, c'est une technique qui est assez ancienne, si ce n'est ancestrale. Mais par contre, pour ce qui est de l'exploitation d'un domaine skiable, on est vraiment sur une neige qui est produite exprès, à l'endroit dont on en a besoin, à l'endroit où on va pouvoir effectivement l'isoler. L'isolation, le fait de la recouvrir d'un matériau type paille, sur de bois, éventuellement un géotextile en plus pour favoriser, avoir un meilleur albédo et donc favoriser le renvoi des rayons du soleil, c'est quelque chose qui se fait de manière générale.
Vous pouvez revenir sur ce terme?
Alors, l'albédo, c'est...
Là, personnellement, ça m'évoque autre chose.
Oui, moi aussi.
La libido?
En ce qui concerne...
Ce n'était pas ça, non.
Mais je vois que vous avez bien cerné Manon. Dites-nous.
Bon, la neige est froide, mais globalement, elle a cette capacité à garder le froid parce qu'elle est très blanche et qu'elle a un albédo élevé et donc elle renvoie bien les rayons du soleil. Ce qui permet de protéger la neige des températures qui se réchauffent, c'est essentiellement ça.
France Inter. Zoom, zoom, zoom. Mathieu Noël.
Peut-on skier écolo? A priori non, et pourtant l'ingénieur spécialiste des sites touristiques en montagne victime du dérèglement climatique Hugues François est avec nous pour zoomer sur le snow farming, ou comment on cultive de la neige pour préserver les stations de ski. Hugues, la France compte parmi les plus grands domaines skiables du monde, on le sait, c'est un enjeu économique majeur. Est-ce qu'il y a des aides publiques pour préserver le modèle économique des stations aujourd'hui?
Alors, la France au niveau international est effectivement dans le top 3 des destinations de ski. Avec l'Autriche et les États-Unis. C'est le pays qui compte le plus grand nombre de remontées mécaniques au monde.
Cocorico.
On a quand même des grands domaines skiables qui ont été... dont le développement a été fortement soutenu par les pouvoirs publics. C'est ce qu'on a appelé, dans la période des années 70, le plan neige. Et effectivement, aujourd'hui, il y a un héritage direct de cette situation, c'est que les remontées mécaniques sont un service public sous la responsabilité des communes ou de leur groupement. Donc après, elles peuvent le gérer de manière différente. C'est-à-dire qu'elles peuvent soit le gérer directement, ce qu'on appelle une régie, soit elles peuvent faire l'objet d'une délégation de services publics.
Mais les remontées mécaniques sont publiques, toutes.
Les remontées mécaniques appartiennent toutes à des communes, à des groupements de communes et pour certaines à des départements.
Et est-ce que la pratique du snow farming, je crois que ça existe en Suisse, mais ça existe en France, le snow farming?
Bien sûr, ça existe en France. Alors on entend souvent parler en début de saison, notamment au Grand Bornand, où il y a... une épreuve de nordique qui est organisée, de biathlon qui est organisée et qui repose en grande partie sur le farming pour être garanti.
Il y a deux ans, justement, pour la Coupe du Monde, des camions avaient dû descendre de la neige stockée en haut de la montagne pour permettre la tenue des épreuves. Ça, c'est l'avenir du sport d'hiver en France?
Alors, transporter de la neige, que ça soit d'un lieu de stockage type snow farming ou d'une zone mieux enneigée vers une zone où on en a besoin pour exploiter un domaine skiable, c'est en fait quelque chose qui s'est fait de manière assez courante, hein, parce que tout le problème de la neige, comme j'ai dit, c'est qu'elle est très variable. On ne sait pas quelle quantité va tomber, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va tomber non plus. Hein, à chaque début de saison, c'est un peu le stress, sensation, est-ce qu'on va pouvoir ouvrir, est-ce qu'on va pouvoir, pas pouvoir ouvrir.
C'est une bonne saison cette année.
Cette année, c'est une saison où les vacances de Noël sont particulièrement bien enneigées et font suite à 3 saisons qui ont été très compliquées, donc ça grossit un petit peu le trait, mais effectivement c'est plutôt un bon démarrage de saison. Voir ce que ça donne par la suite, parce qu'un enneigement au mois de décembre n'est pas à l'abri d'un redoux, comme on peut le voir en moyenne montagne dans le Jura par exemple.
N'allez pas inquiéter Manon, elle a déjà pris sa semaine.
Moi.
Ça va coûter très cher.
Très cher.
Les Alpes françaises doivent accueillir les Jeux Olympiques d'hiver dans 5 ans. Les organisateurs assurent que ce sont des Jeux écolos. Comment ils peuvent affirmer ça?
Alors, l'argument terre des organisateurs des Jeux Olympiques, c'est ça repose sur trois points. Réutilisation des sites, développement de mobilité plus douce et globalement contribuer à la mise à niveau des infrastructures touristiques pour aller de plus en plus vers un tourisme durable. Néanmoins, les Jeux Olympiques, ça reste une compétition internationale qui fait venir du monde de l'ensemble de la planète converger vers un point particulier où auront lieu des épreuves.
Et, il faut que la neige soit là, quoi.
Bon, il faut que la neige soit là, mais globalement, on a autant de risques qu'elle soit là aujourd'hui ou en 2030. C'est à peu près la même chose dans une période climatique, c'est à peu près la même variabilité. Il y a autant de chances, autant de risques qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas. Mais par contre... ce qui ne va pas changer, c'est cette convergence des sportifs et des publics vers un lieu unique. Et le périmètre d'action de la France se situe et se limite à la France. Donc on va pouvoir essayer d'aménager au sein des Alpes, éventuellement notamment des mobilités un peu plus douces, encore que ça demande des investissements et un taux d'équipement, un rythme d'équipement qui va être soutenu. On peut imaginer qu'on arrive à aménager ça, mais dans tous les cas, ça ne change rien au contexte plus général dans lequel les choses vont se passer.
Peu de pistes noires, je le disais, sur les pentes à peine vallonnées de la Suisse normande. Pas de fondue non plus, ni même de croûte au fromage. Décidément, l'arnaque touristique de la Suisse normande est totale. Un jour, on attaquera en justice. En attendant, Quentin, vous, le natif d'Alençon, vous êtes allé dans la rue interroger les passants sur ce principe du snow farming. Vous êtes allé au point le plus haut de Paris, voir si on conservait de la neige.
Montmartre, qui culmine au milieu de la capitale. J'y suis passé hier soir assez tard.
Tiens donc.
Et quand j'ai demandé aux gens s'ils conservaient de la neige quelque part, ils ont cru un code. Je me suis retrouvé dans un plan galère avec de la poudreuse blanche, mais où il faut quand même mettre beaucoup d'argent pour voir ce qui est dessus. Bref, j'ai compris qu'on s'était mal compris, j'ai tourné les talons et j'ai arrêté ce monsieur qui sortait d'un chantier. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Quel est votre prénom à vous ?
Maxime.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Maxime ?
J'ai une boîte de chauffage. Gaz.
Alors, est-ce qu'il connaît le mot du jour de Zoom Zoom Zen ?
Le snow farming.
Vous parlez anglais ?
Yes, I speak English. Moi, la neige, farming, c'est... L'agriculture de la neige, d'accord. Une méthode pour recycler la neige qui séduit les stations françaises. C'est pénible. Non, c'est pas pénible parce que dans tous les cas, l'industrie de la neige, et c'est absolument pas écolo. Mais moi, je suis pas écolo, donc je m'en fous. Mais perso, je vends du gaz, donc je fais du fossile. Donc à la rigueur, l'écologie, je prends l'avion, j'essaye de trier mes déchets, mais c'est tout.
Attends, et dans le fossile, Maxime, c'est pas 30 cm de sur de bois sur un tas de neige qui vont nous faire peur. Mais il y réfléchit quand même.
En vrai, c'est mieux que rien. Si ça peut éviter de mettre des canons à neige, d'utiliser de l'eau, c'est très bien. C'est mieux que rien. Au lieu de laisser la glace fondre, bon, bah, on la réutilise et ça évite d'utiliser les canons à neige dès le mois de novembre quand il fait encore 15 degrés dans les stations. L'ambiance, la tension qu'il y a en France, les gens ont besoin de se détendre.
Mais tu veux changer les idées, je suis d'accord, Maxime. Les guerres, l'insécurité, l'URSSAF, faut décompresser sur les pistes. Charles, il a 30 ans, il est réalisateur, il découvre...
Le snow farming.
Neige, neige ferme, je sais pas. Cultiver dans la neige.
Presque. On va enlever un mot, cultiver la neige.
Ouais, je skie, ouais.
Vous pourriez skier comme ça sur une piste éphémère de la neige de l'année d'avant ?
Non, ça m'emmerderait. Je sais pas, si je skie, j'y vais pendant la bonne saison, j'ai envie que les pistes soient bien fraîches, avec de la neige pure. Et s'il y en a pas, j'y vais pas, je vais ailleurs.
Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait des gens qui travaillent dans ces stations ?
Bah, le monde change, hein. Faut s'adapter.
Il s'agirait de grandir, les montagnards. Non, Charles, ce qu'il gêne, c'est de contraindre la nature.
On essaye de préserver un certain tourisme d'hiver dans les Alpes et dans les Pyrénées aussi. Mais bon, s'il n'y a plus de neige, il n'y a plus de neige. On n'est pas Dieu, on est en train de se prendre pour Dieu et je pense qu'on court à notre perte.
Alors, est-ce que l'être humain se prend pour Dieu ? Elle porte un sac en bandoulière, un manteau beige et de grandes lunettes carrées aux branches fines. Bonjour.
Bonjour.
Quel est votre prénom à vous ?
Je m'appelle Joanne.
Joanne, vous avez quel âge ?
J'ai 27 ans.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Eh bien, écoutez, je suis en changement de vie totale depuis le début de l'année. Je deviens travel planeuse, c'est-à-dire que j'organise des voyages 100% personnalisés qui sont littéralement créés à ma sauce et selon l'envie du client. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que ça porte même mon prénom, à la Joanne.
Et alors, voyageons à la Joanne, qui capte notre sujet du jour et pour cause.
Mais écoutez, moi, je suis savoyarde et du coup, la montagne, je connais un petit peu. Je suis alors très contente d'avoir des nouvelles technologies comme ça, parce que du coup, ça me rassure dans le sens où il y aura toujours du travail dans mes montagnes.
Là, vous avez eu des nouvelles de votre famille ?
Ah oui, ça fait déjà 2-3 semaines qu'ils sont au ski, et voire même des copains qui montrent des photos sur les réseaux où ça fait déjà plusieurs mois. Moi, j'y vais dans 3 semaines, j'ai hâte parce que je vois la neige, ça a l'air tellement magnifique. Enfin, je connais, mais ça fait tellement longtemps que je ne suis pas retournée vraiment au ski. Donc j'ai hâte.
Alors c'est vrai que la saison est merveilleuse. L'an prochain, ça peut aussi être l'inverse. Est-ce qu'on doit snowfarmer en Haute-Savoie ?
Je préfère avoir de la neige de l'année dernière que d'avoir de la fausse neige, forcément, parce que les sensations sont différentes. En soi, je pense qu'il ne faut pas forcer non plus. Si la neige n'est pas un endroit, c'est qu'elle n'est pas faite pour être à cet endroit. Moi, je ne dis pas ça parce que je suis dans le voyage. Moi, je préfère que mes clients attendent le moment qu'il faut pour avoir vraiment quelque chose d'authentique et de vrai, plutôt qu'aller forcer et aller créer des souvenirs sur quelque chose de faux. Il faut arrêter de penser que tout est à la demande. Je peux pas aller skier cette année, et c'est pas grave, j'attendrai l'année d'après. Et dans ces cas-là, il y a tellement de choses à faire sur Terre et dans le monde qu'on peut trouver toujours une solution.
Alors, quel équilibre trouver entre préserver l'économie des sports d'hiver, qui sont tant impactés par le changement climatique, et adapter ce qui doit être naturel à nos envies de voyage et qui exige coûte que coûte à trouver de la neige aux dates qui nous arrangent. En tout cas, à Montmartre, cette année, on aurait peut-être dû snowfarmer.
Hugues-François, il est là le nœud du problème. C'est que, effectivement, c'est très joli de dire on n'a qu'à écouter la nature, on ira skier juste les années où il y a de la neige et on ne bouleverse pas les choses. Sauf que l'économie d'une station de ski, ce n'est pas ça. Si y a une année où il n'y a personne, elle va fermer la station de ski.
Alors, c'est un véritable problème puisque le tourisme a été soutenu par les pouvoirs publics, essentiellement dans un objectif d'aménagement du territoire. Et donc, aujourd'hui, il y a effectivement beaucoup de personnes dont l'activité dépend pendant de la saison hivernale, en grande partie. Alors, il y a forcément d'autres activités pour diversifier, mais la saison hivernale tient une place centrale, parfois, dans certains villages. C'est le petit complément de revenu qui va permettre de maintenir la supérette, qui va lui permettre d'équilibrer son chiffre sur l'année, et du coup, d'avoir des services à la population, donc d'avoir une population locale, une école, et ainsi de suite. Donc, derrière, il y a d'un côté ce qu'on appelle les grandes stations de troisième génération, Amphite Vierge, Ex Nihilo, les stations intégrées, en altitude, qui, elles, sont moins confrontées aux problèmes de la neige et continuent à tourner et ont une capacité d'utiliser les technologies qui permettent de compenser la variabilité naturelle de l'enneigement, qui est une bonne capacité. Et à côté de ça, on a des stations plutôt en moyenne montagne, à plus basse altitude, qui sont liées avec des villages vivant toute l'année, où là, effectivement, on peut avoir des conséquences en chaîne si on n'anticipe pas cette fin du ski. Et plus on va plus on attend pour agir, plus le virage à prendre, il est important parce que la dépendance, elle se maintient en lien avec les sports d'hiver. Et ça, c'est tout le problème aujourd'hui de ce qu'on appelle la transition en station de sport d'hiver. Comment est-ce qu'on fait pour passer d'une économie qui fait vivre des territoires, mais qui est en difficulté, donc qui devient de plus en plus difficile à faire fonctionner, et à tirer des revenus, et en même temps, ces revenus, comment est-ce qu'on peut les réallouer sur autre chose pour pouvoir garantir un autre avenir à ces territoires.
Mais il faut changer les mentalités. Vous avez employé le mot se diversifier. On pourrait très bien imaginer faire de la randonnée au lieu d'aller skier des vacances à la montagne où on part en rando.
Mais l'hiver.
Même s'il n'y a pas de raquettes.
Tu vas en raquette, oui.
Ouais, mais même s'il n'y a pas de neige, c'est pas très très grave. S'il y a des années où il n'y a pas de neige, on peut aller randonner au lieu de skier.
Dans la plupart des territoires de moyenne montagne, globalement, on a des accompagnateurs de moyenne montagne qui sont présents, qui sont structurés, qui ont une activité touristique qui est bisaisonnière et qui sont capables de faire preuve d'une flexibilité, s'adapter aux conditions de pratique, avec ou sans neige, pour proposer quelque chose aux touristes. La question, c'est est-ce que ces activités, elles ont, la même capacité d'attractivité pour les zones de montagne, parce que les zones de montagne, elles sont plus hautes, elles sont plus difficiles d'accès et potentiellement les coûts de la pratique sont plus importants que de territoires plus proches en plaine qui ont aussi des qualités certaines. La deuxième, c'est est-ce que les retombées économiques sont comparables ?
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Quand te reverrai-je ? pays merveilleux, où ceux qui s'aiment vivent à deux. Quelle beauté, quelle puissance. Mais je n'ai aucun mérite, c'est l'infiniment grand qui inspire le poète. Une muse galbée de roches et de pierres, revêtue parfois d'un simple voile de neige. Pardon, je m'enflamme. Et j'en oublierai presque le Zoom Zoom Test. Un quiz qui sera l'occasion de revisiter les plus belles œuvres du 7e art où la neige tient le premier rôle. Sachant qu'aucune réponse donc ne commence par Les Bronzés, c'est pas la peine d'essayer. Débutons avec un film français.
Les Bronzés.
Non. Moins un point en moins, exactement. Exactement. C'est mérité, un point en moins. De là à s'écrier Cocorico, nous emballons pas. Voici le pitch halluciné de ce film qui a fait encore moins d'entrées que le dernier long métrage dans lequel a tourné Benjamin Tranier.
Oh.
Écoutez et laissez-vous emporter.
Vous êtes méchant.
Il y a trois chiffres quand même.
Scott, jeune surdoué du snowboard, n'a qu'un rêve, être le premier. Il veut réaliser ce que personne n'a réussi, aller tout en haut de l'Everest et tenter...
On peut lui dire quand on veut ou pas ?
Oui, et tenter la descente la plus dure, la plus raide.
Non, c'est avec Ahmed Silla, Kev Adams, c'est pas ça ?
Non, c'est pas ça, la première étoile. Non, c'est pas ça.
C'est pas ça ?
En arrivant à Chamonix, capitale mondiale de la glisse, son destin va croiser la route de Pierrick, ancien champion devenu guide de montagne, une rencontre qui pourrait bien le conduire jusqu'au sommet. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai les poils. Alors je ne vais pas vous demander le titre, c'est trop dur, je sais que vous n'êtes pas très cinéma d'art et d'essai. Essayez au moins de trouver les deux acteurs principaux dans la liste qui suit. Franck Gastambide, Kev Adams, Michael Youn ou Vincent Elbaz.
A et B.
C et B.
Personne n'a tout à fait la bonne réponse.
C'était
B et D. Kev Adams et Vincent Elbaz. Et il va falloir beaucoup de volonté pour résister à l'envie d'aller binger illico cette pépite qui s'appelle Tout là-haut. Un film, vous pouvez enlever le jingle de Cinéma Cinéma, merci. Tout là-haut, un film coup de poing réalisé en 2017. Réalisé, oui, mais par qui ? Il est connu. Didier Hazanavicius ? Serge Hazanavicius ? Ou Michel Hazanavicius ?
B.
Bah ça peut pas être Michel.
Comment ça peut pas être Michel?
Bah quand même.
Son ami Ludovic Bourse nous a dit que ça faisait quelques années qu'il avait pas fait de bons films.
Ce fameux Ludovic. C.
Bah vous dites Michel, Michel.
J'essaye.
Non, la bonne réponse est Manon. Serge Hazanavicius, bien sûr. Serge et non Michel, son frère qui lui a réalisé La plus précieuse des marchandises qui se déroule aussi sous la neige, mais en Pologne, pendant la Seconde Guerre mondiale. Allez. Pas tout à fait la même vibe. Maintenant, attention, direction le Québec. Pitch déconseillé aux hypersensibles.
Sparkling.
Philippe, moniteur de ski, arrive à la montagne pour y prendre ses fonctions. Il est accueilli par deux collègues qui ne tardent pas à lui faire découvrir les plaisirs cachés de la station, faits de soirées chaudes et alcoolisées, animées par quelques clients de volage. De fil en aiguille, en dépit d'une relation entretenue avec la star Terry Lopez, il tombe amoureux de Karine, un top modèle qui vit avec Bob, un photographe. Les deux belles lui tourneront le dos. J'en chialerai.
Et
vous allez sûrement en faire autant quand vous découvrirez qui joue là-dedans. Garou, Céline Dion ou René Angélil.
Ah,
c'est chaud.
C'est René.
Je vais dire A.
Manon, bravo. Quentin, que voulez-vous que René Angélil aille foutre dans un film de cul québécois ? C'est la bonne réponse de Quentin, bien sûr. René, façonneur de talent, artiste multifacette, je ne résiste pas au plaisir de vous faire découvrir un extrait de ce bijou.
Tu te retrouves dans ta chambre à coucher avec elle ?
Non.
Ben voyons donc.
Seul avec elle ?
Là, qu'est-ce que tu penses qu'elle rit ?
Non !
Hey, voyons.
De beaux dialogues.
Il y avait un âne.
Effectivement, Quentin, vous l'avez vu. C'est une scène un petit peu qui dérape. De beaux dialogues. Vous pensiez avoir tutoyé le sublime, vous n'êtes pas prêt. Dans la station de Twin Pines Ski Resort, des agents d'entretien déclenchent une avalanche pour sécuriser les pistes. Mais l'explosion réveille une immense créature préhistorique capable de se mouvoir sous la neige. Alors que la station accueille un groupe d'étudiants venus en vacances à la montagne pour profiter d'un programme composé de snowboard, d'alcool et de sexe,
il y a Yeti dans le titre.
Ils vont être confrontés à un T-Rex des neiges qui poursuit les skieurs sur un snowboard improvisé avec un tronc de sapin, un grizzly cocaïnomane qui décime les skieurs, ou une horde de requins affamés qui envahit la station et s'attaque aux touristes en surgissant de la neige.
Bébé,
je suis devant.
Non,
Bébé, pour
avant.
Vous, c'est le grizzly.
Ah.
Je vous suggère de réfléchir un petit peu plus. Mais je vous suggère de réfléchir encore plus. Mais oui, maintenant, bien sûr. Vous êtes la mémoire du cinéma d'art et d'essai. Des requins tueurs en montagne, quelle belle idée. Sûrement une fulgurance de notre bouillante Marie-Monique qui a dû collaborer au scénario d'Avalanche Sharks, ce film du fameux Scott Wheeler. Scott Wheeler que tout le monde connaît et dans les rôles principaux les non moins célèbres Alexander Mendeluk, Kate Nota et Benjamin Easterday. Vous ne connaissez pas Alexander Manelouk, j'ai l'impression.
Non.
Terreur expérimente, le pacte des non-dits, le héros des Ardennes, Forge, Fight or Flight. Non, vous ne connaissez vraiment, vous êtes vraiment nul en cinoche. Juste une dernière histoire de démontrer votre ignorance cinématographique abyssale. Max Salinger, écrivain divorcé, flamboyant et égocentrique, refuse d'accueillir sa fille de 15 ans sous son toit. Pour se venger, elle lui vole son dernier manuscrit et file en classe de neige. Pour récupérer son bien, Max n'a alors pas d'autre choix que de débarquer dans la station de ski en s'improvisant parent accompagnateur. Des descentes épiques en randonnée infernale, la vie de Max au milieu des ados ne s'annonce pas de tout repos. Ce huis clos où l'humain s'écrit avec un H majuscule, c'est tempête de neige, première étoile ou touchous.
B, ah non, c'est touchous, je pense.
Ah.
Tempête de neige.
Ouais.
C'est vraiment nul comme titre.
Bah oui.
Alors que Touchous est un très bon titre. Bonne réponse de Manon. Chef-d'œuvre.
Je me rappelle de avec l'affiche de ce truc.
Chef-d'œuvre avec José Garcia, devant lequel la plupart des spectateurs ont fait. Oui, c'était très mauvais. Victoire de Manon Mariani malgré ce point.
Ah
vous avez perdu au début.
Elle est elle-même surprise, tu vois.
Oui, oui, je suis surprise.
Vous pensez que j'ai même calculé dans ma tête ?
Oh, peut-être.
Mais ils n'ont pas calculé du tout en régie.
Il y avait égalité. Et comme d'habitude,
c'est Mathieu qui choisit.
C'est moi qui décide, effectivement. C'est ce qu'on appelle le fait du prince.
C'est fini, j'arrête la compétition. J'arrête.
Comment les stations de ski se préparent-elles à la disparition de la neige ? C'est le job de notre invité, l'ingénieur Hugues François. On parle en particulier du snow farming, une pratique qui consiste à conserver la neige d'une année sur l'autre pour pérenniser l'activité. Hugues, combien ça coûte le snow farming pour une station ? On sait ça ?
On le sait pas vraiment. Il y a eu des articles qui l'ont évalué un petit peu en Suisse. On était entre 25 et 9 francs suisses. Mais
pourquoi pas... 25 et 9 francs suisses, pourquoi ?
Parce que ça va dépendre...
Non, mais pour quelle quantité de neige ?
Du mètre cube.
Ah, du mètre cube,
oui,
ah, vous
pardon.
Parlez en mètre cube, oui.
Je parle
vous êtes un spécialiste,
cube.
Oui.
Voilà.
Et c'est par rapport au canon à neige, ça représente quoi ? Je veux dire, c'est intéressant financièrement ou c'est quand même beaucoup plus coûteux ?
Alors, comme il faut faire tourner des installations de production de neige, fondamentalement, ça comprend le coût de la production, mais ce qui coûte le plus cher, c'est pas le coût du stockage, c'est pas le coût de la production,
c'est quoi,
vraiment le coût du déstockage et de la répartition de cette neige. Ce qui coûte le plus cher, c'est de répartir la neige. Il faut faire venir globalement une excavatrice qui va aller creuser la neige pour charger des camions. Les camions vont se déplacer, donc il faut du personnel, il faut du matériel, et c'est ça qui coûte le plus cher, c'est de répartir cette neige qui a été stockée.
Mais est-ce qu'au final, du coup, comme Mathieu l'a dit, on l'a peu évoqué, mais l'avenir, c'est pas plus les canons à neige, même si je sais que ça fait polémique, mais quand même, il y en a quand même beaucoup aujourd'hui en France.
Dans tous les cas, la production de neige, elle n'a pas pour objectif de pallier complètement l'enneigement naturel. Elle a pour objectif de maximiser l'utilisation de la neige naturelle. C'est-à-dire qu'elle va servir dans des zones quand même limitées par rapport à l'ensemble des domaines skiables à constituer une sous-couche qu'on va pouvoir utiliser pour damer et capitaliser la moindre chute de neige naturelle. D'accord. Pour pouvoir permettre de skier.
Mais du coup, il peut y avoir du snow farming et des canons à neige dans la même station ?
De toute façon, pour produire de la neige, avec... alors, vous parlez de canons, on parle d'enneigeur, chacun choisira son champ lexical.
Enneigeur, c'est le terme que vous utilisez, vous, les professionnels.
Moi, je parle d'installation de production de neige. Je ne rentre pas dans ce débat entre canons, enneigeurs, artificiels de culture.
Ça revient.
Je parle de l'action de produire de la neige, qui est ce que font concrètement les gens en station de sport d'hiver. Et du coup, pour répondre à la question qui était...
Le snow farming, le canon à neige, ça peut cohabiter ensemble ?
Alors, ça cohabite forcément ensemble, puisque on utilise de la neige qui a été produite pour la stocker, pour faire du snow farming, comme je disais au début de l'émission. Et ensuite, on ne va pas les utiliser au même moment, ni forcément aux mêmes endroits. Typiquement, on peut installer des perches qui produisent de la neige le long des pistes, tout au long, y compris avec l'altitude. Mmh. On va pouvoir produire de la neige directement sur la piste, et les coûts qui sont importants pour la transporter, la réétaler, c'est pas les mêmes, puisqu'elle est produite directement à l'endroit où elle va être ensuite damée. Et par contre, pour produire de la neige, il faut qu'il fasse suffisamment froid aussi. Donc,
on peut pas encore climatiser les pistes. Enfin,
on fait de la neige à température positive, mais c'est encore une autre histoire.
C'est quoi la neige ? Pardon, non, mais dites-nous tout de suite ce qu'est la neige à température positive.
Parce on a des équipements type Snow Factory qui sont effectivement globalement des conteneurs avec de la réfrigération qui permet de produire de la neige qui ensuite est projetée, injectée dans un réseau de neige qui est ensuite abouti sur les pistes.
Il y a quand même deux problématiques. Vous avez parlé de l'eau tout à l'heure. La neige qui doit fondre, il y a quand même une problématique sur l'eau. Et le sol aussi, où on va stocker ce tas de neige. C'est quoi l'impact dans ces domaines ?
Alors, là où on va stocker le tas de neige, c'est sans doute là qu'on a l'impact le plus marquant. Alors, la question de l'eau, elle est un peu plus compliquée, mais le sol, en tant que tel, il va être tassé par la neige, et il y a un certain nombre d'espèces qui ne vont pas survivre au fait d'être couverts pendant toute la période où, notamment, elle est censée se développer, où il y a de la lumière, où elle n'est pas sous la neige naturellement.
Ça, c'est contre nature.
Donc, là, à ce moment-là, effectivement, mais c'est très ponctuel dans l'espace. C'est là où vraiment on stocke la neige et où on a des impacts qui sont assez lourds sur le sol et la biodiversité sous-jacente, notamment les plantes.
Alors, juste question pratique, mais est-ce que les forfaits en montagne vont augmenter ? Parce qu'avec tous ces systèmes, ça a l'air extrêmement coûteux. J'imagine que tout ça va être encore répercuté sur le forfait dans les années qui viennent.
Alors le forfait, il risque effectivement de continuer à augmenter comme il a augmenté régulièrement ces dernières années, hein, parce que ça devient de plus en plus compliqué de produire de la neige et qu'en même temps, les conditions d'ouvrir les domaines skiables, la production de neige en faisant partie, mais du coup, c'est toute la chaîne de production et d'aménagement, de gestion de la neige en domaine skiable qui est impactée. Et en même temps, ça n'empêche pas les saisons de se rétrécir. Donc on contracte les saisons, les conditions d'exploitation sont de plus en plus compliquées, ça devient de plus en plus cher de produire du ski en montagne et donc forcément à la fin c'est le consommateur qui paye, mais en même temps l'offre se restreint aussi, donc on reste dans les lois ordinaires du marché puisqu'il y aura de moins en moins de stations à moyenne altitude qui vont pouvoir offrir du ski de manière significative.
Vous écoutez France Inter et vous êtes toujours plus nombreux à avoir cet excellent réflexe.
C'est vrai.
Un peu d'autopromo.
Pas faux, bien sûr.
Pas de mine. Manon, l'autre personne à suivre, s'il vous plaît.
Je vous présente Jeremy Jones. Il a 49 ans, il est américain et c'est un ancien snowboarder professionnel. Jeremy Jones s'est fait connaître pour sa pratique du Big Mountain Snowboarding où il descend des montagnes abruptes en pleine poudreuse, mais très rapidement. Oui, je suis à regarder des vidéos, c'est très impressionnant,
ça,
Quentin.
Ça a l'air.
Vous direz. Il a participé à de nombreuses compétitions internationales et il a aussi fait de sa passion des dizaines de films où on le voit dévaler des montagnes à grande vitesse. Jeremy Jones est également le fondateur de sa marque spécialisée dans le matériel de snowboard. Mais si je vous parle de lui aujourd'hui, c'est parce qu'en 2007, il fonde l'association Protect Our Winters pour sensibiliser et mobiliser la communauté des sports d'hiver contre le réchauffement climatique. Il en a eu l'idée dans les années 90. Il snowboardait dans l'état du Wyoming et quand il est arrivé au sommet d'une des montagnes, le chef de la patrouille de ski avec qui il était lui a dit « ça n'est jamais arrivé ». Devant eux, trop peu de neige pour la saison. Il a donc commencé à chercher des associations engagé pour lutter contre le réchauffement climatique à la montagne, mais il n'y en avait pas. Du coup, quelques années plus tard, ils fondent Protect Our Winters. L'asso regroupe des dizaines d'athlètes dans plusieurs pays qui sont ses porte-voix aux États-Unis, au Canada, en Europe et même au Japon. Elle veut engager la communauté des sports d'hiver pour qu'elle devienne l'ambassadrice du climat. C'est pour ça qu'elle collabore aussi avec des marques et des ONG environnementales. En France, l'un des principaux combats de Protect Our Winters, c'est le transport individuel, comme la voiture. Plus de 50% des émissions de CO2 d'une station de ski sont attribuables au transport, qu'il s'agisse de celui des locaux ou celui des vacanciers. Plus globalement, l'association mène aussi des campagnes de sensibilisation en milieu scolaire, participe aux conférences climatiques internationales comme les COP et soutient la transition énergétique des stations de ski. Et puis, ils ont aussi mis en place un action fund qui finance des recherches sur les impacts climatiques pour préserver les environnements montagnards pour les générations futures.
Merci Manon. Hugues François, là on est là en studio, on est à Paris, on discute de la montagne et de l'avenir des sports d'hiver. Vous vivez du côté de Grenoble et vous échangez, j'imagine, avec les gens qui vivent à la montagne. Qu'est-ce qu'ils disent de tout ça, du réchauffement climatique ? Est-ce que c'est un thème de conversation pour eux ?
Alors, en montagne, notamment les acteurs des stations, ils ont toujours connu cette variabilité d'enneigement et cette difficulté pour ouvrir leur station.
C'est si nouveau que ça, quoi.
C'est pas si nouveau que ça pour eux. Et la production de neige, dans un premier temps, elle a été mise en œuvre pour répondre à cette problématique, avant même de parler de changement climatique. Et d'ailleurs, il y a un phénomène assez paradoxal qui a pu avoir lieu. C'est-à-dire que si on regarde un petit peu les chroniques d'enneigement, on a vraiment un effet de seuil, un effet sensible sur la diminution de l'enneigement en moyenne montagne à partir des années 80, milieu des années 80, et qui s'est traduit par deux hivers sans neige à la fin des années 80, 89, 90, 90, 91, qui ont beaucoup marqué les esprits. Mais dans le même moment, on a commencé à produire de la neige. Et finalement, pendant que les effets sensibles du changement climatique continuaient à être de plus en plus forts, de plus en plus sensibles, donc on a pu se sentir, les conditions d'exploitation, la capacité à gérer la neige en domaine skiable, elle s'améliorait. Et donc, comment est-ce qu'on peut demander à une profession dans ce contexte-là de percevoir le phénomène de fond qui est déjà masqué par une tendance très très variable. Oui.
Voilà. Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Lorsque vous arrivez à la Mongie, avec la nausée, car la route est tortueuse en plus, le premier truc qui vous saute aux yeux, à part évidemment l'absence de neige, c'est le magasin Courad Sport, où pour la modique somme de 347 euros, Popeye Courad, le cousin de Pierre, vous louera des skis quasi neufs de 2002. Après ça, bon ça c'est le tarif pour la demi-journée, vous pourrez peut-être avoir un prix. Bonjour Pierre.
Si on m'a entendu, ça peut marcher. Bonjour Mathieu.
Bonjour à tous.
La montagne, je ne sais pas si ça vous gagne, mais en tout cas ça gagne. Mais pour encore combien de temps, vous nous résumez tout ce qu'on s'est dit en une minute chrono.
Et déjà à toutes fins utiles, il y a actuellement 55 cm de neige en bas et en haut des pistes actuellement à la Mongie. C'est l'abbé Chibrard qui a mesuré avec son instrument. Pas besoin de cultiver de la neige donc avec la technique du snow farming dont nous a parlé aujourd'hui notre invité l'ingénieur Hugues François. Les Alpes en revanche ont besoin d'abuser du snow farming. La technique consiste à conserver de la neige d'un hiver sur l'autre en l'isolant sous une épaisse couche de copeaux de bois. Une technique qui peut paraître écolo, sauf si on se dit que les sports d'hiver c'est de toute manière pas très écolo, mais qui ne l'est pas forcément. Comme nous l'a expliqué notre invité, la neige conservée est essentiellement artificielle, générée par des canons à neige, ce qui utilise beaucoup d'eau et peut détériorer les sols où cette neige est stockée. C'est quoi qu'il arrive, une manière de maintenir une activité économique saisonnière essentielle pour de nombreuses communes de France. Notre pays compte l'un des plus grands domaines skiables du monde et la transition des stations confrontées au dérèglement climatique est aujourd'hui à l'œuvre. D'autant que notre invité nous a expliqué que 98% des stations de ski européennes sont à terme menacées par un faible enneigement. Malgré tout, les Alpes françaises devraient accueillir les Jeux Olympiques d'hiver dans 5 ans, un événement qu'attend avec impatience notre ancienne invitée Marie-Monique Robin, adepte de la poudreuse.
On peut même imaginer que vous alliez prendre une petite ligne, vous voyez.
Marie-Monique, tu nous manques. Et oui, Cyril voulait intervenir.
Pas du tout, je voulais dire attention, il y a un son à la fin de la chronique.
Ah, oui, très bien.
C'est produit. Non,
il faudrait qu'au bout de 3 saisons, on travaille sur notre gestuelle, peut-être avec des petits signaux signifieraient chacun quelque chose, qu'on ne se marche pas dessus. Mais enfin, c'est pas grave.
On va le couper, c'est ça.
Oui, oh, ça marche quand même. Bah. Merci Pierre et bisous à votre cousin.
Popeye.
C'est pas possible, il va neiger. C'est ce que sa maman s'est exclamé le matin où, pour la première fois, il s'est réveillé sans avoir mouillé ses draps. Il avait alors 32 ans. Bonjour Harold Barbet.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Je dois bien vous l'avouer d'entrée, je m'en fous du snow farming. Voilà. À partir du moment où on a commencé à mettre du sable dans Paris pour faire une fausse plage, j'ai compris que l'humanité était perdue et qu'on allait droit dans le mur. Alors, de la neige en août, du sable à Paname, bientôt un Dorsal Store sur la Lune, tout va bien, tout va bien. Alors comme on l'a expliqué, le snow farming, c'est collecter et conserver de la neige pour s'en servir plus tard. Se rouler dedans, se la lancer au visage, c'est le même principe qu'une banque du sperme. Sans le côté se rouler dedans et se la lancer au visage. Quoique après tout, faites bien ce que vous voulez. Alors c'est dur pour moi de trouver un point positif au snow farming, tout simplement car je déteste le ski. Ah, je hais tellement le ski et la montagne que c'est un miracle que j'aime encore la raclette. Tout me fait horreur là-bas. Je ne sais pas ce que je hais le plus dans la vie. Avoir une conversation avec quelqu'un qui me parle trop près du visage ou pénétrer l'austérité d'une boutique de location de matériel de ski. Tu rentres là-dedans, ça pue la vieille chaussette et le rêve brisé. Un mec de 40 ans passé t'accueille avec des dreadlocks dégueulasses. On dirait qu'il a un lustre posé sur la tête, un lustre de bite. Tout le fait chier. Le mec est désagréable comme jamais, il se la pète. Mais comment tu peux te la péter quand tu portes une veste polaire quechua pastel et que t'as une dent qui court après le beefsteak? C'est le royaume des prétentieux, le ski. Quand je vois un gars faire un dérapage, j'attends qu'une seule chose, c'est d'entendre le crack de la fracture de sa malléole externe. Je les déteste, putain! Il y a un côté acharnement thérapeutique à conserver la neige. Mais laissez-la fondre, cette neige. Elle a rien demandé. Elle a vécu sa vie. Déjà qu'elle a dû supporter tout un tas de connards en doudou de North Face qui ont écrit leur prénom à rallonge en lui pissant dessus. Ah mince, j'ai pas bu assez d'eau, j'arrive pas à finir. Heureusement que j'ai la colique depuis ce matin. En 2025, le fromage fond plus vite que la neige dans les montagnes. Ça n'a pas de sens, mais c'est pas grave. Conserver de la neige un an, c'est comme coucher avec sa sœur. C'est contre nature, mais dans les montagnes, ça passe. Pensez à Mère Nature. Mère Nature, c'est la maman un peu laxiste qui contrôle pas trop ses enfants. Elle est là, arrêtez, c'est pas bien ce que vous faites. Et nous, on s'en fout, on continue. Mais quand elle va s'énerver, on va tous tellement payer. Faudra pas venir se plaindre quand les enfants naîtront avec des trous de balles à la place des narines. Laissez la neige mourir, bon sang! J'ai bossé 2 ans en pompe funèbre. Laissez-moi faire, j'ai écrit une lettre d'excuse de notre part à tous, à la neige, en espérant que Mère Nature en tienne compte. Chère neige, le visage blanc et refroidi depuis longtemps, tu as tout du cadavre idéal. Tous ces gens richissimes pétés de thunes qui vont te marcher dessus et t'ignorer comme si tu ne représentais rien, bienvenue dans la vie d'un Français de la classe moyenne. Aujourd'hui, on te déterre une fois par an, un peu comme une vieille tante que l'on invite qu'au réveillon de Noël. Alors que ton seul souhait, c'est de mourir et de ne surtout plus jamais, jamais croiser notre route. On ne peut pas dire que tu nous manqueras, car on t'utilisera encore et encore et encore chaque année, jusqu'à ce que tu deviennes inutilisable. On te ressortira du frigo, comme Jean-Pierre Foucault pour la soirée Miss France. Rest in peace, la neige, qu'on pourrait traduire par « repose dans ton pipi ». Enfin, celui des skieurs, en l'occurrence. Toutes nos excuses, la neige. Bisous, Harold.
Merci beaucoup, Harold. Et je précise qu'il y a une vérité dans ce que vous avez dit. Alors, vous détestez peut-être le ski.
Absolument.
Mais vous avez aussi bossé dans les pompes funèbres.
C'est totalement vrai aussi.
Je me suis renseigné sur ce CV étonnant. Oui. Merci, Harold Barber. On se retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen. Et les 10 et 11 janvier à Bourg-les-Valences, le 17 à Reims, le 23 janvier au théâtre Le Métropole à Paris. Toutes les dates sur haroldbarber.com.
Tout simplement.
Zoom Zoom Zen.